RTS. Bonjour, c'est Caroline Stévran. Vous vous sentez comment, vous, psychiquement ? Cette question, même si elle surprend encore quelques fois, on se la pose de plus en plus. Longtemps tabou, le mal-être gagne en visibilité. Le Point J a consacré plusieurs épisodes à des sujets comme l'éco-anxiété, le désespoir des ados ou le blues hivernal. Mais vous nous avez écrit pour en demander davantage. Bipolarité, schizophrénie, troubles de l'attention, c'est quoi exactement et comment on vit avec ? Une série d'épisodes fera le point à partir de la semaine prochaine. D'ici là, au vu d'un écho médiatique grandissant, de statistiques parfois effrayantes et d'un contexte pour le moins angoissant entre guerre, Covid, bouleversement climatique, nous nous sommes demandé : les maladies psy vont-elles nous submerger ?
Le Point J.
Avec Laurent Michaud, médecin adjoint dans le service de psychiatrie de liaison du CHUV. Et vous allez voir, ce spécialiste des suicides se veut plutôt rassurant. Bonjour Laurent Michaud.
Bonjour.
Alors, on parle de troubles psychiques, psychiatriques, psychologiques, de troubles mentaux. Quelle différence ?
Ces différents termes désignent la souffrance des personnes et peut-être qu'un psychologue parlera plus de troubles psychologiques, un psychiatre de troubles psychiatriques. Et puis, quand on a un regard plus épidémiologique ou de santé publique, on va parler de santé mentale aussi pour mettre l'accent sur la santé plus que sur la maladie. Mais finalement, toutes ces appellations sont des manières de parler des difficultés psy que peuvent éprouver les gens.
D'accord. Alors, on va rester sur le psy, comme ça, ça sera générique. Du coup, quelles sont les principales maladies psy, Laurent Michaud ?
Bon, c'est pas une question à laquelle il est facile de répondre très brièvement, parce qu'il y a deux bibles de classification des maladies, une qui est éditée par l'Association américaine de psychiatrie, le DSM, et puis l'autre par l'Organisation mondiale de la santé, la classification internationale des maladies. Et puis, c'est les deux des livres qui font plusieurs centaines de pages. Donc, de dire qu'au fond, cette classification est assez élaborée et complexe. Mais disons, il y a quand même des grandes familles. On peut en citer comme ça quelques-unes, je ne vais pas être exhaustif. Il y a ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, où on trouve la dépression, ou les troubles bipolaires, qu'on appelait anciennement la maniaco-dépression. On a les troubles anxieux, où on va trouver les phobies, les troubles de l'adaptation, des choses comme ça. On a ensuite tous les troubles psychotiques, donc les troubles du spectre autour de la schizophrénie, où il y a une perte de contact avec la réalité. Il y a une autre grande catégorie, c'est les troubles de personnalité, des difficultés qui sont plutôt quelque part inscrites dans notre caractère, notre personnalité, notre manière de fonctionner. Et puis, il y a les troubles liés à l'addiction, avec des problèmes de dépendance.
Mmh. Alors, certaines estimations annoncent qu'un adulte sur quatre sera touché par une de ces maladies au cours de sa vie. En Suisse, une étude récente établit qu'une personne sur 100 souffre de schizophrénie. Est-ce que ces troubles sont le nouveau mal du siècle ?
Je ne sais pas si c'est le nouveau mal du siècle. Ce qui est sûr, c'est que les difficultés de santé mentale, les difficultés psy, c'est quelque chose qui est très répandu par rapport à d'autres types de maladies. Et puis que c'est vraiment assez banal qu'une fois dans notre existence, on soit touché par un trouble psy. Ensuite, est-ce que c'est le mal du siècle ? Alors, disons, il y a une question complexe là autour, c'est que ces classifications dont j'ai parlé tout à l'heure, le CIM, le DSM, elles ont assez massivement augmenté leur catégorie diagnostique toutes ces dernières années. Et donc, on trouve finalement plus de personnes qui correspondent aux critères pour les troubles, ce qui ne veut pas forcément dire que les gens sont plus malades. Mais après, on peut peut-être focaliser sur certaines maladies ou certaines manifestations. Par exemple, la dépression, qui est une maladie bien connue ou, voilà, caractérisée essentiellement par le fait qu'on est triste, on n'a pas de motivation, pas de perspective en l'avenir. Cette maladie-là, elle est considérée par l'OMS comme un facteur d'invalidité qui va devenir de plus en plus important. Après, je pense qu'il faut être quand même relativement prudent par rapport au discours qu'on peut avoir là-dessus, puisqu'il y a aussi d'autres indicateurs. Enfin, personnellement, je m'occupe beaucoup de prévention du suicide. Par exemple, les taux de suicide, ils sont plutôt globalement en diminution au niveau mondial. C'est un autre marqueur de souffrance. Donc, je suis pas sûr que je dirais qu'il y a une sorte d'épidémie comme ça de maladies psy.
Donc, c'est qu'on y prête davantage attention, qu'on les diagnostique plus, plutôt que de dire qu'il y en aurait plus qu'auparavant.
Absolument. Je pense que ça, c'est vraiment très important à dire. C'est qu'il y a une détabouisation de ces maladies psychologiques, qui n'est pas encore complète. Hein, ça reste quand même quelque chose de compliqué, de dire qu'on va chez le psy, de dire qu'on a été hospitalisé en milieu psychiatrique. Malheureusement, ça peut rester difficile, mais c'est sûr que par rapport à il y a quelques dizaines d'années, c'est devenu quelque chose de plus naturel, dont on parle plus. Vous m'invitez, il y a beaucoup d'émissions médiatiques autour de cette question. Et donc, effectivement, c'est plus sur la place publique que ça ne l'était probablement il y a quelques dizaines d'années.
Pour quelle raison ?
Bah écoutez, je pense que c'est un mouvement sociétal, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de tabou, peut-être alors plus généralement même à la maladie physique, mais la maladie psychique, on mettait les fous dans des asiles, hors de la ville, et ça c'est quelque chose qui a progressivement changé à partir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des énormes progrès aussi au niveau de la médication, où on a pu mieux soigner la schizophrénie qui était assez emblématique des troubles psychiatriques avec des personnes très déconnectée de la réalité, justement qu'on enfermait dans des asiles. Et puis la psychiatrie, la psychologie, la santé mentale, elles ont plus occupé le devant de la scène sur le plan sociologique, dans les médias aussi. Elle a plus droit de cité, alors qu'avant on la cachait dans un coin, la souffrance psychique. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que de manière plus personnelle, les uns et les autres, probablement que lorsqu'on était en proie à des difficultés psychiques, il y avait une injonction aussi sociétale, culturelle, à garder ça pour soi, à ne pas trop en parler, alors qu'aujourd'hui, il y a probablement plus de liberté à chercher de l'aide, à en parler, et ça fait que ça existe plus, finalement.
Ça existe plus. Cécile, elle, vit avec sa bipolarité depuis quelques années. Elle raconte son quotidien à ma collègue Juliane dans une vidéo dont vous entendrez un extrait à la fin de cet épisode. Sa maladie, comme la schizophrénie d'ailleurs, a été décrite dans des textes de l'Antiquité déjà. Mais y a-t-il de nouveaux troubles qui ont fait leur apparition ces dernières années, Laurent Michaud ?
On décrit beaucoup de nouveaux troubles dans ces classifications diagnostiques que j'ai pu évoquer. Il y a des troubles qui sont liés au fond à l'évolution. Un exemple assez classique comme ça, c'est toutes les nouvelles addictions aux écrans, évidemment, les addictions aux jeux de hasard, enfin qui existent, elles, peut-être depuis déjà plus longtemps. Après, est-ce que c'est vraiment des nouvelles maladies ? La question de l'addiction, elle est aussi extrêmement ancienne. L'addiction à l'opium, par exemple, ça peut remonter à très loin. Et au fond, les mécanismes à la fois neurobiologiques et psychologiques, ils sont pas forcément extrêmement différents.
Mmh. Alors justement, quel rôle peuvent jouer des contextes comme le réchauffement climatique, par exemple, je pense à l'éco-anxiété dont on parle beaucoup depuis quelques temps, ou la pandémie de Covid-19?
Oui, alors je pense que c'est un bon exemple, les désordres climatiques, de comment l'actualité, la société qui évolue peut amener des difficultés spécifiques. Mais au fond, à nouveau, l'éco-anxiété, pour l'appeler comme ça, c'est tout de même une variation autour de la question de l'angoisse, de l'anxiété, du stress qu'on avait retrouvé à d'autres époques en lien avec d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de ces nouveaux objets en tant que tels, qu'il ne faut pas réfléchir, est-ce qu'il y a des thérapeutiques spécifiques pour l'éco-anxiété, mais disons, sur le fond, ça recoupe quand même une des grandes catégories que j'évoquais en début d'entretien, les troubles anxieux. Votre autre question, ça tenait à la pandémie. On a vu se développer effectivement toutes sortes de stress, d'angoisse, de souffrance psy. Là aussi, il y a un objet qui est nouveau, la pandémie. Mais au fond, les réactions de l'être humain, elles ne sont pas fondamentalement différentes que par rapport à d'autres objets qui pourraient créer de l'angoisse, du stress, activer quelque chose de la peur de la maladie, de la peur de la mort.
Mais néanmoins, là, il y a une augmentation quand même des cas dus à ce contexte.
Au début de la pandémie, on a énormément dit on va avoir un tsunami de suicides, les gens vont être extrêmement mal, vont tenter de se suicider, etc. Tout ce qui est sorti jusque-là dans la littérature ne va clairement pas dans ce sens-là, à part dans certaines populations spécifiques, les jeunes dans certaines tranches d'âge, dans certaines études, les femmes ont aussi été plus touchées. Donc je pense qu'il faut être quand même assez prudent avec le discours qu'on a là autour. C'est probablement plus l'histoire et le long terme qui nous permettront de dire quels ont été les vrais impacts en termes psy de cette pandémie.
Et si les jeunes semblent davantage touchés, c'est sans doute parce qu'étant en mu, ils ont une plus grande plasticité et donc une porosité à ce qui se passe autour d'eux, d'après Laurent Michaud. Bipolarité, schizophrénie. Alors vous l'avez dit, hein, ces maladies psy sont très variées, nombreuses. Néanmoins, dans la manière de les soigner, est-ce qu'il y a des similitudes et puis est-ce qu'on peut en guérir ?
Il y a des similitudes. Je dirais l'approche centrale et la plus importante de l'ensemble des traitements psy, c'est une approche par la relation, c'est-à-dire la relation soigne. On le voit bien, nous, avec nos proches, nos amis, quand on n'est pas bien, ça nous fait du bien d'être en lien. Beaucoup de professionnels se sont spécialisés dans la relation, très souvent sous une forme plus spécifique qui s'appelle psychothérapie. L'autre grande approche, c'est l'approche médicamenteuse, qui, au fond, existe pour un certain nombre de troubles, pas tous. Et puis, je dirais, un troisième axe extrêmement important, c'est ce qui va aider les personnes à surmonter un épisode difficile, une maladie psy, c'est aussi ce qui se passe dans leur vie, leur environnement professionnel, les ressources amicales et familiales, ça va être extrêmement important.
Mmh. Et donc on peut en guérir ?
La très grande majorité des personnes qui souffrent à un moment donné d'un épisode dépressif ou anxieux ou d'un autre trouble psychiatrique, elles vont à un moment donné retrouver un fonctionnement qui est leur fonctionnement habituel. Alors, bien sûr qu'au sein des maladies psychiatriques, il y a certains troubles qui sont plus sévères que d'autres. Hein. C'est la même chose d'ailleurs à l'intérieur de la schizophrénie ou des troubles bipolaires. Mais disons, là aussi, je pense que c'est très important de dire que quand une maladie se déclare, les choses ne sont pas écrites. Et puis que au fond, on a une partie importante des personnes qui entrent dans une maladie bipolaire ou dans une maladie schizophrénique qui vont ensuite pouvoir se rétablir et trouver un mode de vie, un équilibre qui leur convient et dans lequel elles sont stables.
Merci beaucoup Laurent Michaud.
Merci à vous.
Trouver un équilibre avec la bipolarité, c'est ce qu'essaye de faire Cécile, maman solo de 47 ans. Elle l'explique au micro de ma collègue Juliane Roncoroni.
Mes filles, effectivement, me perçoivent dans ce trouble puisque... il faut savoir que mon trouble, il est apparu à l'aube de mes 40 ans. J'étais déjà maman. Donc elles le vivent depuis le début, enfin, depuis les premiers prémices, les symptômes et les crises, les épisodes. Et aujourd'hui, quand j'ai une petite fille de 8 ans qui me dit « Mais maman, t'es en haut ou t'es en bas ? Mais maman, tu parles toute seule ?» Ou « Maman, t'es bizarre ?» Et ou alors ma grande « Mais maman, là, tu t'énerves pour rien ?» C'est vrai que je suis très sensible aux signes extérieurs, à ce que les gens me... Comment les gens me voient, en fait, parce que moi, des fois, je me vois pas. Enfin, on se sent pas quand on est tellement bien. On se sent pas vraiment... On se sent tellement bien que c'est normal. Mais en fait, c'est pas normal.
Ce témoignage très touchant accompagnera en vidéo et sur Instagram le premier épisode de la série Psy du Point J consacré à la bipolarité. Rendez-vous le 30 mars. Et par la suite, nous aborderons aussi la schizophrénie, les troubles de l'attention ou encore les addictions à travers interviews de spécialistes et témoignages. Si vous aussi vous avez des idées d'épisodes à nous soumettre autour de la santé mentale ou si vous souhaitez témoigner, écrivez-nous point j@rts.ch. En attendant, prenez soin de vous, de vos humeurs et continuez à nous écouter. Merci et à bientôt.
Le point J.